Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi, à la radio, sur RMC, à la télé, RMC Story, canal 23 de la TNT. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. Après, ce sera l'intégral tour avec Christophe Cessieux et nous sommes ravis d'être avec vous. Avec tout d'abord, Charles Magnin. Bonjour Charles.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Nous sommes également avec l'économiste de l'émission, Pierre Rondeau. Bonjour Pierre.
Salut Estelle, salut à toutes et à tous.
Le journaliste et libraire, Jean-Philippe Doux, est là aussi. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Vous êtes habillés pareil, tous les deux t-shirts blancs. Ouais, on dirait deux infirmiers.
Il fait 33 à Paris. Actuellement.
Ah oui, oui, non, alors, d'accord.
C'est autorisé à mettre un t-shirt.
Bah, on peut aussi être un peu original. Genre, c'était,
le blanc, autorisé. C'est passe-partout.
Ah bah oui,
on s'est mis d'accord avec Jean-Philippe.
Oui, ça, c'est passe-partout.
On s'est appelé, on s'est dit en blanc.
Oui, voilà, oui.
C'est formidable. Et puis, nous sommes également avec un homme qui a mis une veste. Il fait 33 degrés à Paris.
Mais c'est une surchemise en lin.
Oh bah, excusez-moi, Frédéric.
Excuse-moi.
Pardon.
Faut appeler les choses par leur nom.
Avec un petit liseré bleu, blanc, rouge.
C'était le petit point fashion de Fred Hermel. Dans un instant, on parlera de Marine Le Pen, candidate à la présidentielle malgré sa condamnation pour détournement de fonds publics. Est-ce choquant? Eh bien, vous nous dites tout au 3216 ou sur le WhatsApp d'Estelle Midi.
Le 0612 424 424, que vous soyez électeur du RN ou pas, d'ailleurs, vous réagissez évidemment en direct. On va lire tous vos messages pendant l'émission.
On parlera de la France qui suffoque de nouveau, ça sera à midi et demi. Faut-il réquisitionner les lieux climatisés? Et puis, 13h30, je pense que vous allez être très nombreux à réagir. La Corée du Sud qui réfléchit à rembourser des traitements contre la calvitie. Est-ce qu'il faudrait faire la même chose en France? 3216, vous nous appelez, vous réagissez.
RMC, Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC, on démarre Estelle Midi avec le coup de tonnerre du jour. Et c'est l'annonce hier de Marine Le Pen qui sera donc candidate à l'élection présidentielle malgré sa condamnation pour détournement de fonds européens. La chef de file du RN s'est pourvue en cassation. Écoutez ses explications hier soir sur TF1.
Je suis candidate à l'élection présidentielle.
Et vous ne changerez pas d'avis?
Non, je ne changerai pas d'avis, non. Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
Et Marine Le Pen qui a donc démarré sa campagne ce matin sans bracelet électronique, mais tout de même, Charles, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Oui, elle s'est lancée là tout à il y a quelques minutes dans un premier déplacement de campagne dans la Sarthe à La Flèche en compagnie de Jordan Bardella, presque comme si de rien n'était, même si ce déplacement a été perturbé par des militants écolos et insoumis. Mais Marine Le Pen en réalité fait un pari. Elle se pourvoit en cassation, sa condamnation est donc pour l'instant suspendue. Tout dépend maintenant du moment, du calendrier où la Cour de cassation va se prononcer. Il y a quelques mois, cette Cour avait annoncé qu'elle tenterait de se prononcer autour de la fin de l'année 2026, avant la présidentielle, pour ne pas entraver le scrutin. Et donc à ce moment-là, en décembre 2026 ou janvier 2027, il y aura deux scénarios. Soit la Cour de cassation annule la condamnation de Marine Le Pen, soit la Cour confirme sa condamnation, sa peine d'un an de prison sous bracelet électronique qui devra alors être exécutée. Selon un avocat cité par l'AFP, Marine Le Pen fait un pari, en fait, celui que la justice n'osera pas lui mettre un bracelet électronique à quelques semaines du scrutin. En attendant, elle s'est donc lancée en campagne sous le feu des critiques de ses rivaux depuis hier soir, qui rappellent tous ses déclarations nombreuses sur la probité des élus et le fait qu'un responsable politique condamné ne devrait plus pouvoir se présenter.
Alors, Marine Le Pen, candidate à la présidentielle, est-ce que ça vous choque, Jean-Philippe Doux?
C'est choquant au niveau de la morale, parce qu'en effet, quand on a été pris la main dans le sac, et pour l'instant, en attendant la cassation, elle a été condamnée, donc... lui confier le budget de l'État, lui confier des responsabilités présidentielles.
Rien, hein, pour le
coup, hein. Non, mais je veux dire qu'elle soit en position de lui voir confier l'État. Moi, je trouve ça choquant au niveau de la morale. Choquant aussi de se dire qu'on aura peut-être une présidente qui sera condamnée après les élections. Et enfin, moi, je trouve que, alors bien sûr, la loi le prévoit. Il y a rien d'illégal. Alors, faut peut-être du coup penser à revoir la loi, parce que quelqu'un qui a été condamné et qui est encore dans ce timing judiciaire ne devrait peut-être pas se présenter. En tout cas, elle peut le faire. Mais je trouve que c'est une très très bonne nouvelle pour tous les adversaires du RN, parce que c'est en fait, ils n'ont rien à faire. Enfin, elle se tire une balle dans le pied.
Ça va être une campagne campagne problématique pour elle, c'est sûr.
Voilà, et c'est une très mauvaise nouvelle pour le RN. Je pense qu'il aurait fallu qu'elle laisse Bardella, en tout cas pour le RN, qui aurait eu plus de chance qu'elle, parce que là, je vois pas comment elle peut mener une enfin, on le voit
à mon avis, ils ont dû en débattre ensemble, et pour le coup, si c'est elle qui mène la campagne et pas Jordan Bardella, c'est aussi peut-être parce que Jordan Bardella n'était pas prêt. S'il avait été si prêt que ça, a priori, Marine Le Pen ne se serait pas lancée. Donc c'est peut-être aussi un aveu de faiblesse du RN par rapport à Jordan Bardella. Mais vous dites la morale, Jean-Philippe, mais est-ce que vous, ça vous choque, Fred Hermel, qu'on puisse avoir à un moment, en tout cas, une présidente de la République qui serait sous bracelet, quoi?
Bah, il n'y est pas encore, hein.
Oui, non, j'ai dit qu'il serait, j'ai mis le conditionnel.
C'est le sketch de Bigard, si la chauve-souris, quoi. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai aimé dans l'arrêt de la cour d'appel, que j'ai lu, c'est on voulait garder la liberté de choix de l'électeur. Je pense que la grande nouvelle, c'est ça. C'est que la justice dit c'est le peuple qui va choisir. Le juge suprême, la justice, elle est
normalement rendue... la justice, elle se prononce pas là-dessus. Hein. Elle doit pas avoir la présidentielle en ligne de mire. La justice, elle est indépendante. Oui. Je suis désolée.
C'est l'arrêt de la cour d'appel hier. Rendre la liberté à l'électeur, ne pas confisquer l'élection présidentielle. Ça, c'est noir sur blanc. Hein. Enfin, je veux dire, c'est la justice est rendue au nom du peuple français. Et le juge suprême dans une démocratie, c'est le peuple. Donc, c'est au peuple de choisir.
Je suis désolée. La justice.
Donc là, la justice, la cour d'arrêt dit qu'elle peut se présenter. Concrètement, elle ne dit pas ça, mais dans sa décision, elle laisse à Marine Le Pen la possibilité de se présenter.
En fait, elle a été considérée inéligible pendant 15 mois.
Voilà, et c'est fini.
Elle a déjà purgé.
Donc c'est fini.
Mais elle a un casier judiciaire. Vous vous rendez compte qu'il y a des professions aujourd'hui en France auxquelles vous ne pouvez pas accéder si vous avez un casier. Mais en revanche, je peux être président de la République avec un casier. Je sais pas, il y a un truc qui va pas.
Mais là, on ne sait pas ce que va dire la cour d'appel. On ne sait même pas si la cour d'appel.
La cour de cassation.
Si la cour d'appel.
Il y a quand même deux condamnations.
Oui, mais la
première instance, c'est pour
appel. Oui. Il y a une cassation. Ils sont suspendus. Donc tu disais, elle est condamnée. Non, elle est présumée innocente puisqu'il y a une nouvelle juridiction. C'est la loi.
Peut-être qu'il faut changer la loi. En tout cas,
oui, mais dans ce cas-là,
pour la prochaine fois. Mais moi, ça me paraît. Excusez-moi, ça me paraît fou de pouvoir se présenter aujourd'hui à l'élection présidentielle alors que tu n'as pas un casier judiciaire.
C'est au peuple de décider.
J'espère que c'est pas le peuple qui décide de ton casier judiciaire.
Non, mais c'est le peuple qui décide s'il est dit ou pas une.
Oui, mais là, on lui dit
une personne sous le coup de deux condamnations.
Au niveau de la.
Je me permets de redire la même chose. Le juge suprême, c'est le peuple. Moi, ça ne me gêne pas qu'en démocratie, ce soit le peuple qui décide si Marine Le Pen.
Si t'as un casier judiciaire, dans ces cas-là, avoir un casier judiciaire ne signifie plus rien et tu peux faire toutes les professions.
Et les enseignants qui peuvent pas enseigner.
Est-ce que la loi interdit à quelqu'un de se présenter?
Non, mais peut-être qu'il faut changer la loi.
Un casier judiciaire, la réponse est non.
Mais peut-être qu'il faut changer la loi, pas maintenant.
On a un débat juridique sur la loi, faut-il la changer ou non. Là, moi, je vais parler en matière de probité. On a un parti politique qui met en avant depuis très longtemps la nécessité de la probité.
Tout à fait.
Mettre en avant un discours anti-élite en disant qu'il faut mettre en avant la probité politique. Il faut pouvoir se présenter avec un casier judiciaire vierge, ce qui a été dit notamment par Jordan Bardella, que même Marine Le Pen avait annoncé qu'elle ne ferait pas campagne et qu'elle ne serait pas candidate si elle devait porter un bracelet électronique.
Elle n'en porte pas là.
Elle n'en porte pas. Mais le problème, c'est que si en décembre prochain, la Cour de cassation donne une troisième fois raison aux conclusions d'un procès avec des conclusions qui ont été étayées, qui ont été argumentées deux fois de suite, on a justifié pourquoi Marine Le Pen a été condamnée. Donc qu'on me dise aujourd'hui c'est vrai présomption d'innocence parce qu'elle est en cour de cassation.
Ce qui est vrai.
Oui, mais là très concrètement tel qu'on observe les choses, elle a été condamnée deux fois et deux fois de manière étayée et argumentée. C'est pas l'un ou l'autre, c'est concrètement il y a eu deux condamnations. Nous sommes d'accord, elle peut aller en cour de cassation.
Elle y va.
Et la condamnation est suspendue, soit. Mais on a un parti politique qui, depuis des années, nous dit probité, nous dit excellence, interdit à ce qu'un élu un candidat puisse se présenter s'il a un casier judiciaire. On a même Marine Le Pen qui, la semaine dernière, a dit « Je ne ferai pas campagne si je devais porter un bracelet électronique. » Quid de janvier prochain.
Elle n'en porte pas.
Oui, mais quid de janvier prochain.
Est-ce qu'ils peuvent encore switcher, d'ailleurs?
Bah oui, bien sûr, c'est pour ça qu'ils font la campagne à deux.
C'est un ticket gagnant, mais justement, c'est un vrai pari. Et moi, au-delà du pari, moi, je mets à la place d'un électeur du RN qui, tel qu'on l'entend, va critiquer tous les vieux partis politiques, PS, UMP, Républicains, tous ces partis politiques avec des élus qui ont été condamnés, qui sont maintenus et qui ont continué à gouverner la France malgré des condamnations, en disant « nous, on ne le fera jamais ». Et eux, deux fois de suite, première instance, et appel, deux fois de suite, ils ont été condamnés.
Bah, ils pourront voter ou pas, c'est simple, c'est facile. Ouais, ils ont le droit de vote.
Moi, je serais content.
Mais je veux dire, t'inquiète pas pour
encore une fois,
t'inquiète
là,
pas pour l'électeur du RN. Si ça gêne ça, moralement, il ne votera pas pour Marine Le Pen.
Donc tout va bien. Au niveau du discours, c'est entendre quelqu'un qui nous dit il faut l'excellence et derrière constate que deux fois de façon étayée se maintient candidat.
On verra les premiers sondages dans une semaine. Déjà, on verra si Marine Le Pen perd des points dans les sondages. Moi, je suis pas sûr du tout.
Je pense qu'elle ment. En tout cas, ça va alimenter le désamour des Français pour la politique, parce que c'est pas possible de voir ça.
Alors justement, il y a de très nombreux auditeurs qui nous appellent au 32-16. On a Jérôme de Perpignan, qui est maître d'hôtel et qui voulait réagir. Bonjour Jérôme.
Et bonjour à tout le plateau et bonjour à Estelle. Tout d'abord, un petit mot.
Allez-y.
Un fort soutien, un fort respect à nos sapeurs-pompiers qui luttent autour de Perpignan. Mmh. Et je sais que le plateau d'RMC et vous, Estelle Midi, chaque fois, vous vous exprimez pour leur donner un petit soutien. Donc, je les soutiens à tous, encore, qui luttent pour protéger nos habitations.
Exactement, parce que vous êtes des Pyrénées-Orientales, bien sûr, et qui sont en proie de violence
dans son lit. Dans les cabines, donc, ils sont fous d'Essel.
Jérôme, alors, est-ce que vous, ça vous choque de voir Marine Le Pen qui puisse être candidate à l'élection présidentielle?
Alors, évidemment, c'est choquant. Parce qu'elle est condamnée, elle brigue le poste le plus haut, celui de la présidente de la République. Mais à la fois, il y a des droits de la défense, il y a des recours, il y a des procédures. Et elle surfe sur un manque de confiance que portent les Français sur les décisions de justice. Alors c'est un peu le retour de boomerang. Et elle a eu raison de se représenter en sachant le peu de confiance. Et on l'écoute très souvent sur vos plateaux et dans les débats. Que portent les Français sur les décisions de justice?
Oui, c'est vrai qu'en ce moment, l'institution judiciaire est un peu égratignée.
Qu'est-ce
qu'ils
disent les Français ce matin? Vous voyez, moi j'étais à Perpignan par rapport au maire Louis Alliot, qui a été condamné, qui peut continuer ses mandats, et son action politique. Il n'y en a aucun qui a eu un propos négatif. La phrase choquante, oui, il est condamné, mais il va pouvoir continuer ses actions.
Alors c'est un peu différent peut-être quand on est maire, parce qu'on ne préside pas au destin de tous les Français. Mais Jérôme, est-ce que par exemple, si éventuellement vous étiez électeur de Marine Le Pen, est-ce que ça pourrait changer votre vote ou pas du tout?
Mais moi ça me changerait si elle va dans cette campagne dévoiler un peu un phénix qui combat des décisions de justice et qui ne veut pas respecter cette décision.
D'accord.
Ça me choquerait. C'est-à-dire qu'il y aurait, si vous voulez, c'est une petite nuance que je pense que vous l'exprimez sur les plateaux. Il y a une petite nuance, un petit côté attention, si Marine Le Pen lève le bouclier de voilà, moi je suis là pour combattre cette décision de justice. Il y a un côté un peu chez les Français, enfin pour moi, si j'avais à choisir, qui me dérange un peu.
D'accord.
Je voudrais un petit peu un mea culpa, mais je pense qu'on l'aura pas, n'est-ce pas? Mais un petit mea culpa serait quand même assez apprécié durant la campagne pour qu'elle puisse avoir comme à l'écoute certains qui pourraient dire bon ben voilà, elle a été condamnée, donc du coup elle combat, c'est les droits de la défense.
Ok.
Et puis elle revient pas dessus. Mais attention, hein, en face d'elle, il y a personne. Il y a personne.
Il y a personne, vous exagérez. Édouard Philippe est plutôt pas trop mal dans les sondages. On sait que Mélenchon est un diesel. Et puis après, il y en a d'autres qui peuvent arriver. François Hollande est très bien placé dans les sondages, notamment. Et puis, il peut y avoir d'autres candidats.
On va rappeler, parce que depuis hier soir, on a l'impression qu'on vote dimanche prochain. C'est dans un an.
Bien dit.
Là, il y a une accélération parce que ça y est, elle s'est déclarée candidate. Elle fait des déplacements de campagne, les autres lui répondent, etc. Là, on se croirait à 10 jours du scrutin.
Ouais, mais on a l'impression
qu'on est
parti,
encore très loin.
Là,
on n'a même pas encore le casting.
Oui.
Même au RN.
Ah bah, on a quand même déjà 50 personnes. La salle est quand même déjà remplie.
Et a priori, on espère que ça écrème un peu.
Il y a quand même du chemin avant d'avoir 50 personnes.
Et d'ailleurs, Benjamin Lucas s'est désisté. Ça faisait déjà une place.
Ça m'a
empêché de dormir. Bon, merci beaucoup, Jérôme, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et effectivement, on a évidemment une pensée pour tous les pompiers qui se battent contre les incendies dans les Pyrénées-Orientales. Nous sommes avec notre invité sur ce débat, Arnaud Benedetti, qui n'a pas dû chômer hier soir. Arnaud, professeur associé à la Sorbonne, directeur de la Nouvelle Revue Politique. Bonjour, Arnaud.
Bonjour à vous.
Bonjour. Et merci d'être avec nous. Sacré coup de tonnerre quand même, Arnaud Benedetti. Si on avait dû parier en fin d'après-midi, on n'aurait jamais parié sur une candidature de Marine Le Pen.
Ben, en fin d'après-midi, après le délibéré de la Cour d'appel, la question se posait. Si si elle serait candidate ou pas. La surprise vient vraisemblablement surtout du pourvoi en cassation, parce que on imaginait qu'elle allait accepter la condamnation, trouver un moyen d'aménager sa peine de port d'un bracelet électronique, parce qu'elle pouvait bénéficier de remises de peine déjà automatiques, puisque c'est une peine inférieure à, enfin en tout cas une peine d'un an qui permet des remises automatiques assez, assez rapides. Et on se posait la question de savoir si, finalement, je veux dire, elle allait intégrer cette condamnation et l'accepter. Elle l'accepte pas. Elle se pourvoit en cassation. Dans un état de droit, il faut rappeler que la logique pénale, c'est trois étages de juridiction. Elle est présumée innocente. D'ailleurs, la procureure générale de la Cour d'appel, ce matin, l'a rappelé. Le vrai sujet qui se pose aujourd'hui, si vous voulez, dans cette affaire, c'est... Elle fait un pari qui est un pari risqué, mais qui peut se tenir tactiquement parlant, dans la mesure où elle fait le pari que, de toute façon, la Cour de cassation ne rendra pas sa décision avant le second tour de l'élection présidentielle, même si c'est vrai.
Ça fait désordre quand même, Arnaud Benedetti, pardon.
Oui, mais... Le problème, c'est la procédure après.
Oui, dans cette affaire, il faut que ça change.
La diligence qu'avait manifestée, si vous voulez, la Cour de cassation en première instance, lorsqu'elle avait été interrogée suite à la condamnation, à la première condamnation de Marine Le Pen, était de mettre en avant le fait que l'exécution provisoire, qui n'a pas été requise, il faut le rappeler, en seconde instance, nécessitait en effet une procédure accélérée. Là, l'exécution provisoire a sauté. À partir du moment où l'exécution provisoire saute, il est évident que le degré d'urgence n'est plus tout à fait le même pour la Cour de cassation. Donc, vraisemblablement, on peut imaginer que les défenseurs de Marine Le Pen ont vraisemblablement proposé à celle-ci cette stratégie et qu'elle l'a actée et qu'elle a, en effet, hier, d'une certaine manière, tenu sa parole. Parce que qu'est-ce qu'elle dit ? Elle disait « Je ne serai pas candidate si
j'ai un bracelet.
Je dois être astreint au port d'un...
d'un bracelet.
Pour le moment, elle n'en a pas. La question est de savoir quand est-ce que la Cour de cassation rendra sa décision, sachant que déjà, les avocats ont 4 mois pour déposer, les avocats de la défense ont 4 mois pour déposer la conclusion. Donc ça nous amène déjà quasiment à la fin de l'année.
Bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications, Arnaud Benedetti. Merci d'avoir été avec nous. Et on termine avec Hicham de Cergy, dans le Val-d'Oise. Il est infirmier libéral. Bonjour Hicham.
Bonjour l'équipe, bonjour Estelle, bonjour Fred, bonjour la totale.
Ok. Vous allez bien. Ben oui, très bien, Hicham. Est-ce que vous, ça vous choque de voir Marine Le Pen candidate à la présidentielle? Est-ce que Jordan Bardella n'aurait pas été une meilleure solution pour le RN?
Alors, petit préambule, 10 petites secondes. Jérôme, l'auditeur d'avant parlait des pompiers. Je salue aussi les pompiers. Je salue aussi les infirmiers et les infirmières qui sont dans les hôpitaux à 34 degrés. La canicule, on n'en parle plus.
Maintenant, on en parle dans 3 minutes, là, vous voyez.
Vous me rappelez dans 3 minutes, alors.
Ok.
Du coup, Marine Le Pen. Moi, je trouve que c'est assez cocasse, quand même, et qu'on rappelle pas assez pourquoi elle est condamnée, cette dame. Détournement d'argent public, 4 millions. On nous dit qu'il n'y a pas d'enregistrement personnel, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles.
Mais ça, c'est au-delà la justice, Hicham. Voilà, la justice, elle a rendu son verdict.
Je préfère quand même le dire. Et donc, la justice a rendu son verdict. La justice dit que cette dame, elle est coupable par 2 fois. Première instance et en appel. Elle se pourvoit en cassation. Pourquoi ? Pour gagner du temps. Maintenant, politiquement parlant, c'est bien joué. Elle a bassé carte, Marine Le Pen. Parce qu'elle sait que Jordan, que s'il était devant Mélenchon, Édouard Philippe, du haut de ses 30 ans, sans formation, sans diplôme, sans emploi, il se serait fait castagner, que vous le vouliez ou non. Donc là, elle se lance dans cette bataille. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que son RN, il a pas de chance avec Bardella. Donc là, le problème qui va se poser maintenant, c'est que peu importe que ça soit Marine ou Jordan, Jordan aurait essuyé les invectives concernant son curriculum vitae. Et elle, qu'est-ce qu'elle va essuyer ? Elle va essuyer le fait qu'elle est poursuivie en justice et qu'elle a une épée Damoclès avec la cassation. Donc du coup, l'un ou l'autre, je pense que politiquement parlant, ça aurait été compliqué. Maintenant, moi, ce qui me fait qui m'embête un peu pour être poli, c'est qu'on va encore passer une campagne présidentielle à ne pas me parler des programmes. On va parler du pédigré de la justice et des casiers des uns et des autres. En 2017, c'était Fillon, on nous a volé cette campagne sur les programmes. En 2022, on nous l'a volé avec l'Ukraine. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de programme contre programme. Et là, rebelote. À un an de l'élection présidentielle, hier, Maxime Souitec, qui fait une excellente émission spéciale sur BFM, BFM, et pendant 3 heures, on parle de quoi? De cassation, d'appel, de bracelet électronique. Les programmes vont passer encore à l'as. Et c'est ça qui est pénible, et les Français en ont marre. Et
alors, j'aime bien ce que vous dites, Hicham, et vous avez raison. Et c'est vrai qu'on a été frustrés en 2022 de ne pas avoir plus de débats. Emmanuel Macron, qui n'a pas participé d'ailleurs au débat avant la présidentielle. Là, aujourd'hui, toutes les chaînes info, nous, évidemment, on parle de l'actu. Et l'actu, c'est effectivement ce qui s'est passé hier avec Marine Le Pen. Après, dans 3 mois, je vous assure, Hicham, après les vacances, tout le monde va parler de la retraite. À quel âge l'âge de la retraite? Est-ce que capitalisation, répartition, etc. Ça va être l'enjeu. On parlera moins du bracelet, mais après, c'est pas de la faute des électeurs, c'est de la faute de Marine Le Pen, d'être candidate à la présidentielle et de faire que, évidemment, elle sera en proie aux invectives comme ce matin, aux moqueries, aux insultes peut-être. Voilà, c'est son choix à elle de faire la présidentielle, et évidemment que pour elle, la présidentielle, elle va être plus difficile, c'est sûr, que si elle avait été totalement blanchie. En tout cas, merci beaucoup, Hicham, d'avoir été avec nous. Et dans 5 minutes, on parle de canicule, Hicham, je vous le promets. Merci.
Mais en attendant, cette décision de Marine Le Pen, ça vous divise, sur le WhatsApp de l'émission au 06 12 424 424. Raoul qui nous dit, moi, au contraire, ça me motive encore plus à voter RN. J'ai l'impression que la justice s'acharne contre elle, alors que beaucoup d'autres partis ont eu aussi le même genre d'affaires, mais qu'on est beaucoup plus sévère avec Marine Le Pen. C'est en tout cas le sentiment de Raoul. Alexis, lui, nous dit, j'estime que Marine Le Pen aurait dû céder sa place parce que ça va polluer sa campagne, quoi qu'il arrive, ses opposants, les journalistes, tout le monde ne veut lui parler que de cette condamnation pendant des mois, au lieu de parler de son programme et de la politique. Alors Marine Le Pen qui maintient sa candidature, qui décide d'être candidate, est-ce que ça vous choque ou pas? Vous avez répondu non à 69%.
C'est quand même une large majorité. Dans un instant, on va parler de la proposition du sénateur de Paris, Yann Brossat, qui souhaiterait réquisitionner les lieux climatisés en période de canicule. Tiens, 71 départements en vigilance orange actuellement. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On en débat avec vous dans un instant au 32-16.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 31, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, en compagnie de Charles Magnin, de Pierre Rondeau, de Jean-Philippe Doux et de Fred Hermel. Et on va tout de suite poursuivre Estelle Midi avec la proposition de loi du jour, et c'est celle que le sénateur de Paris, Yann Brossat, va déposer aujourd'hui pour réquisitionner les lieux climatisés en cas de canicule. 71 départements sont en vigilance canicule orange actuellement en France, et l'idée de Yann Brossat, eh bien, ce serait de permettre aux plus précaires d'accéder à des endroits frais lorsque les températures s'élèvent, Charles.
Oui, il appelle ça une forme, je cite, de réquisition climatique. En cas de vigilance rouge, par exemple, il voudrait que l'État, les collectivités, les mairies puissent réquisitionner certains lieux frais. Il cite des exemples qui ne sont évidemment pas choisis au hasard, notamment les espaces commerciaux comme les étages du BHV au cœur de Paris, qui pour certains sont vides depuis des mois et qui sont climatisés. Il parle aussi des jardins de Matignon ou encore la piscine de l'établissement scolaire privé Stanislas qui dispose d'une piscine. Il cite aussi des centres de congrès ou encore certains immeubles de bureaux qui ne sont pas utilisés en permanence et qui sont climatisés. L'idée est de donner accès aux plus fragiles à des espaces rafraîchis plusieurs heures par jour. Et il voudrait que les préfets listent l'ensemble des lieux qui pourraient être potentiellement réquisitionnés en cas de forte chaleur. Et quand on lui demande qui paierait le coût de la clim dans tous ces espaces, il répond les pouvoirs publics.
Bon, écoutez, très bien. Alors, faut-il réquisitionner les lieux climatisés en temps de canicule? Tiens, Pierre Rondeau, est-ce que vous pourriez aller dormir au BHV?
Non, mais
vous qui avez souffert de la chaleur.
Soyons sérieux, 5 minutes. Yann Brossat, élu du Parti communiste, il applique simplement les thèses marxistes, léninistes, développées et théorisées depuis maintenant plus de 100 ans, qui n'ont aucune espèce de véracité ou de crédibilité aujourd'hui. C'est basé sur rien et ça ne fait pas avancer le débat. Et moi, c'est ce qui m'énerve. C'est qu'on a un vrai débat sur l'adaptation, sur le dérèglement climatique, sur le vivre en période de canicule, où, je le rappelle, le GIEC a listé dans son dernier rapport 857 villes occidentales et les a classées selon l'ordre de bien-être en temps de canicule. Paris est la dernière ville des 857 villes occidentales. Qui était aux manettes à la mairie de Paris pendant 8 ans ? Yann Brossa. Qu'a-t-il fait pour accélérer cette adaptation à la canicule et au dérèglement climatique ? Et maintenant qu'il n'est plus aux manettes, qu'il n'est que, entre guillemets, sénateur de Paris, il appelle à une proposition profondément soviétique, la réquisition des logements, la réquisition des bureaux.
Pas des logements, pardon, mais des bureaux.
La réquisition des bureaux.
Oui, mais BHV, c'est vide.
Mais alors, déjà, un.
Après, c'est un espace privé, il y a le droit à la propriété quand même.
Il y a quand même le droit à la propriété, et c'est vide, donc la clim n'est pas allumée, j'imagine. Je sais pas comment se.
Il y a certains étages qui sont encore allumés. Donc,
très certainement, mais encore... avant de passer par la réquisition.
Alors, s'il avait dit, par exemple, et moi, ça, j'aurais trouvé ça très bien. Tiens, la salle de fête, il y a plein de salles aujourd'hui, il y a plein de salons à la mairie de Paris, j'imagine qu'ils doivent être climatisés. S'il avait dit, tiens, il faut réquisitionner, entre guillemets, ces salons de la mairie de Paris pour y mettre les plus précaires. Vous auriez dit oui, vous payez des impôts locaux.
Mais de la même manière, comme les théâtres municipaux et les musées de la ville de Paris sont gratuits pour les moins de 26 ans. Il y a aussi des choses qu'il ne faut pas aussi.
Alors, ils sont assez peu climatisés.
Beaucoup de musées parisiens qui sont climatisés.
Oui,
il y a quelques théâtres, pas tous, vous avez raison, mais quelques théâtres qui sont climatisés et ils sont gratuits pour les moins de 26 ans. Il y a déjà des choses qui sont faites. Mais au-delà de ça, moi, surtout ce qui m'insurge, c'est que cette personne a été aux manettes de la mairie de Paris pendant 8 ans. Il aurait pu faire des choses,
Et
aujourd'hui, c'est un peu facile de dire, voilà, avec son.
On n'a pas vécu ces épisodes.
On ne les a pas vécu les dix dernières années. Le GIEC écrit des rapports depuis maintenant 30 ans.
Mais j'entends.
Donc on le savait, et lui en plus.
On le savait, mais on ne l'avait pas vécu. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience.
Maintenant qu'on l'a
même
vécu, je sors le manifeste du Parti communiste et j'en appelle à la réquisition et je porte atteinte au droit à la propriété.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour. Tiens, hier, par exemple, il y a une vieille dame, Louisette, qui est morte en banlieue parisienne. Elle est morte à 93 ans parce que en fait, elle est morte de chaud. Qu'on fait pour Louisette?
Depuis 2003, il y a la Joint Solidarité qui est censée rapporter 3 milliards d'euros par an.
Elle est morte dans son logement. Elle est morte dans son logement parce qu'il n'y avait pas de volet.
On est d'accord. Mais la Joint Solidarité, c'est pour les personnes âgées. C'est pas uniquement pour les EHPAD. 3 milliards par an depuis 2003. D'accord. Est-ce qu'on n'a pas pu lancer un plan d'accélération de la climatisation, y compris dans les espaces privés?
On aurait dû,
depuis 2003, à travers la Joint Solidarité qui rapporte 3 milliards d'euros par an, favoriser.
Mais on l'a pas fait.
Mais voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On sort le manifeste du Parti communiste et on appelle à la réquisition des logements et des bureaux, pardon.
Mais vous n'étiez pas de gauche, vous?
Oui,
pas
dis
communiste,
donc.
En tout cas.
Jean-Philippe,
bon, en tout cas, pour moi, le 8 juillet 2026 est à marquer d'une pierre blanche parce que je suis plutôt d'accord avec Yann Brossa. Et vraiment, je ne pensais pas le dire un jour.
Enfin, qu'est-ce qui se passe?
Il y a une inversion.
Moi, je n'ai plus de repères.
Il y a une inversion. Non, mais parce que, en effet, moi, je me mets à la place des maires. Je pense que c'est vraiment une responsabilité municipale. Des maires qui, d'un côté, équipent, par exemple, des écoles de climatisation, des écoles qui sont vides, là, depuis une semaine, des écoles qui sont vides, mais qui peuvent rafraîchir les gens. Donc, pourquoi ne pas faire, en effet, des heures de rafraîchissement aux personnes. Enfin, moi, en tant que maire, je ne supporterais pas d'avoir d'un côté de la rue des gens qui souffrent de la chaleur, qui souffrent de cette canicule jour et nuit, parce que c'est le principe de la canicule. Ils n'ont pas de répit, ces gens-là. Et d'un côté avoir ces gens-là, et de l'autre côté avoir des écoles, avoir des salles des fêtes qui
Ils emmènent dormir dans les jardins de Matignon, comme ils le réclament.
Pas dormir, mais quelques heures de rafraîchissement par jour. Tous les médecins le disent, quelques heures de rafraîchissement suffisent à atténuer le côté vraiment brutal.
Mais c'est pas
brutal.
D'offrir ça.
Non, tu m'as pas écouté, Estelle. Le maire qui est d'un côté à des bâtiments.
Enfin, le BHV, c'est pas public.
Pas le BHV, mais en effet, pourquoi ne pas faire profiter aux gens de tous les établissements publics qui sont rafraîchis? Pourquoi ne pas le faire? Moi, je suis pour évidemment l'atténuation du. Donc,
mais donne-moi un exemple d'espace
plus long
public.
Terme. Ben les écoles.
Si elles sont climatisées.
Ben elles sont pas climatisées.
Certaines écoles le sont. Elles sont rafraîchies ou elles sont climatisées. Et on a fait le débat ici il y a 15 jours en disant il faut climatiser les écoles. Les écoles là sont vides pendant 2 mois.
Ah oui, les ouvrir, ça c'est vrai.
Eh bien pendant 2 mois, on peut faire des pauses fraîcheurs, on va dire, à des gens qui vraiment sont dans des appartements. Et vraiment le maire, encore une fois, c'est la responsabilité du maire, qui a aussi des régies immobilières, qui qui, d'un côté, le maire, il sait que dans certains bâtiments que lui-même gère, il y a des gens qui sont en souffrance parce qu'il n'y a pas de volets, parce que etc. Et d'un autre côté, il a des bâtiments qui permettraient d'atténuer.
Je vais juste donner un exemple parce que Yann Brossat, il est juste sénateur, il n'est pas maire, donc il peut faire sa proposition, ça ne l'engage à rien, il ne fait rien concrètement.
C'est pour ça qu'il l'a fait.
Mais quand il fait sa proposition, il y a un maire LR du 17e arrondissement de Paris qui lui dit mais j'ai pas attendu Yann Brossat, il n'y a pas besoin de réquisitionner. Bah oui. Moi, par exemple, la salle des mariages dans ma mairie, dans le 17e arrondissement, elle est climatisée. Et ben, je l'ai ouverte les jours de forte chaleur. Il a dit j'ai trouvé des bénévoles.
Il a pas été faire du buzz.
Gérer l'accueil, etc. Oui. Il faut trouver des lieux, parfois des lieux municipaux, qui sont déjà climatisés. Il n'y a pas besoin de passer par la réquisition. C'est le mot qui fait peur à tout le monde.
Évidemment. Et surtout, la réquisition des lieux privés. Là, lieux publics qui permettraient ça. Donc, profitons-en. Mais encore une fois, ça, c'est l'adaptation en urgence. Mais réfléchissons aussi plus loin, encore une fois, sur l'atténuation du dérèglement climatique. Et prenons des mesures pour qu'on n'ait plus à faire ça dans les années qui viennent.
Et après, les gens ne sont pas débiles. Aujourd'hui, les centres commerciaux, ils sont bondés. C'est pas parce que les gens font les soldes. Ça marche plus, les soldes.
Cinémas aussi.
Mais alors, les cinémas, c'est payant. Mais en l'occurrence, les centres commerciaux, en plus, aujourd'hui, il y a toujours des banquettes un peu moelleuses, etc. Ils sont pris d'assaut parce que c'est climatisé. Alors évidemment, les plus précaires, comme cette pauvre Louisette qui est décédée là il y a quelques jours, c'est plus difficile pour elle de se rendre au centre commercial, etc. Et bien sûr, ces gens-là, il faut les aider. Mais a priori, la plupart des gens, ils connaissent les endroits climatisés. Et si vraiment il y a besoin, ils y vont. Mais est-ce que vous, Fred Hermel, vous êtes sensible comme Jean-Philippe Doux à cette proposition?
Je m'attendais pas à me faire piquer. J'étais sûr que j'allais être le seul aujourd'hui à pouvoir parler de Marx et Engels, de l'Union soviétique. Je m'attendais pas à me faire piquer cet argument par le gauchiste du programme.
On connaît nos classiques quand même.
Comme quoi
il les a lus trois fois. Hein.
Mais comme quoi. Enfin, moi, je les ai lus à 18 ans. Le manifeste parti communiste. Non, 17 ans, j'ai lu le manifeste.
Vous avez bien oublié quand même. Enfin bon, oui. Alors.
Non. Justement, il faut bien connaître comment ça marche. Non, mais c'est c'est totalement surréaliste en fait. C'est en gros, mais il y a des mots qui reviennent, des mots de nos cours d'histoire, dictature du prolétariat, planification, kolkhoze, tu vois, tous ces mots qui appartiennent à un passé heureusement oublié. Mais il y a encore des gens qui peuvent écouter les dires de Yann Brossat, qui était un garçon assez sympathique au
mais
dehors.
Mais il essaie de faire le bien, pour le coup.
Le bien, non. Il essaie d'imposer une idéologie qui a montré sa faillite totale, qui a fait quand même 100 millions de morts. Enfin, le communisme, c'est 100 millions de morts. Mais le communisme
c'est
aujourd'hui.
Veut, la manifestation.
Mais non, mais enfin, excuse-moi, la réquisition du privé, c'est une forme de dictature.
Pas des logements.
Tu comprends? Pas des logements. Ben oui, mais enfin, ça, je veux dire, toi, c'est surréaliste. Et en général, alors je ne sais pas exactement quelle est la position personnelle de Yann Brossat sur la climatisation. Enfin, il fait partie de la gauche qui est globalement hostile à la climatisation.
Ouais, de moins en moins.
Mais quand même, tu les écoutes, je vous rappelle qu'on a quand même un débat en France. Être pro-clim, c'est être de droite. Être anti-clim, c'est un peu de gauche.
Ça, c'était il y a un mois.
Non, mais il y a un mois. Pardonne-moi de voilà.
Donc quand il faisait frais, quoi.
Voilà. C'est des gens qui, il y a un mois, étaient contre la clim, d'un coup, ils sont pour la clim aujourd'hui. Mais réquisitionnez.
Mais ça sauve des gens, Fred.
Mais que le public et Geoffroy Boulard, que je connais très bien d'ailleurs, le maire du 17e, il y a plein de maires qui font plein de choses. Dans des petites communes aussi, ils font plein de trucs pour ça. Mais ce qui est choquant, c'est la réquisition du privé en disant nous, pouvoir public, nous ne sommes pas capables de faire ça, donc on va piquer ça au privé. On va obliger le privé à faire.
En fait, je pense qu'ils sont capables, mais ils préfèrent quand même prendre les salles des autres.
Vous voyez ce que c'est dire. Ça. Oui, la salle des. Oui. Non, mais oui, les nationalisations.
C'est de la com politique à 0 euro. C'est à 0 euros. Voilà, il est allé se filmer dans le BHV vide en disant regardez, ici, il y a la crime. Et en face, il y a des immeubles où les gens meurent.
C'est une forme. C'est une forme de nationalisation. Ça s'est fait en France en 1981, entre 81 et 83. Voilà. Bon, on est un peu revenu tu vois, c'est la dernière fois que les communistes ont vraiment gouverné.
Oui, mais Charles.
Avec François Mitterrand. Ce que je trouve surréaliste, c'est que ce message puisse encore passer aujourd'hui. Qu'on puisse encore
mais aujourd'hui il est malin, son
être
message.
Capable de passer ce message.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire avec tout?
Mais il est malin. Aller se filmer dans les couloirs du BHV, c'est malin. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Mais c'est de la
en vrai, c'est plutôt malin.
Oui, mais aujourd'hui, Estelle, pardonne-moi. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de gens malins en com. On a besoin de bons politiques qui préparent l'avenir.
Alors, pardon, mais il y a des gens en ce moment qui nous regardent, qui souffrent de la chaleur.
Ah oui.
Et de savoir qu'il y a des lieux de l'autre côté de la rue, qu'on pourrait, alors, réquisitionner, j'aime pas ce terme-là. Mais en effet, s'il y a des niveaux, des plateaux, climatisés, et ils parlent de fonds publics qui paieraient la facture d'électricité. Donc, à la limite, le privé, il a juste à ouvrir la porte en disant, OK.
Ah, le fonds public, pardon, Jean-Philippe, c'est nous, hein.
Pardon, mais si toi, tu as un appartement climatisé, que ta voisine souffre, tu vas pas l'inviter chez elle, chez toi? Fred, honnêtement.
Enfin, je vois pas le.
Mais moi,
je vois pas quelle voisine, la voisine du dessous, la voisine du dessous. Les deux. La voisine du dessous, elle a un petit climatiseur. La voisine du dessous, elle a un petit climatiseur. On a tous des petits climatiseurs.
Non, mais c'est de l'humanité.
Oui, mais enfin, l'humanité, excuse-moi, ce n'est pas. Moi, si j'ai besoin d'être généreux, c'est pas l'État qui va me le dire. Alors, ce que je veux dire, c'est pas une autre politique qui va me le dire.
Je paierai ta facture d'électricité et offre la
climatisation. Oui, alors ça, j'aimerais bien voir comment on va me payer ma facture.
Oui, bah, tu vois, c'est.
On termine avec des messages sur ce débat clivant.
Diana qui nous dit ne vous moquez pas, moi en ce moment, je meurs de chaud chez moi et je suis ravie quand je vais au boulot et qu'il y a la clim. Donc, oui, voilà. C'est pas absurde et on est plusieurs parmi mes collègues à traîner un peu en ce moment au travail
c'est pas mal.
Avec la clim.
Vous-même, vous l'avez fait, Charles.
Vous
avez dit qu'est-ce que tu fais encore là au boulot à cette heure-là et tu m'as dit je traîne.
Bah, quand il fait 45 dehors et qu'on finit à 15-16 heures, on n'est pas pressé de sortir dehors.
Exactement.
Il a même emmené un lit de camp, il paraît.
Oui. Concernant Yann Brossa, il y a Pascal qui nous écrit, mais comment veut-il sécuriser tous ces lieux? Parce que c'est bien beau d'ouvrir les portes en grand, des bureaux, des centres commerciaux la nuit, pourquoi pas des grands magasins. Mais forcément, il y aurait vite des dégradations. Qui va indemniser les commerçants et les sociétés privées qui ouvriraient leurs portes? Cette proposition est purement démago, c'est ce qu'en pense Pascal. Et d'ailleurs, quand on vous pose la question, faut-il réquisitionner les lieux climatisés? Vous répondez non, c'est pas à 95%, c'est non à 76%. Trois quarts, un quart,
exactement. Dans un instant, Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès, qui va nous parler de ces entreprises de plus en plus nombreuses et qui, paradoxalement, reviennent à l'humain. C'est-à-dire que fini la robotisation et l'intelligence artificielle à l'outrance, on revient à l'humain. Anthony nous explique ça dans un instant. À tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Il est midi 50 et midi 50. C'est le moment d'accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Anthony, chaque jour dans cette émission, vous virez des gens. Et je vous le reproche, d'ailleurs, non. Anthony, mais aujourd'hui, vous allez nous donner un petit peu d'espoir pour ceux justement qui pensent qu'ils vont être remplacés par l'intelligence artificielle. De plus en plus d'entreprises, Anthony, commence à faire machine arrière.
Oui, c'est ça. Et je voulais absolument faire cette chronique précisément parce que vous m'accusez injustement quasiment toutes les semaines de mettre des gens au chômage. Je rappelle pour tous ceux qui nous écoutent que je ne suis que le messager et que je n'approuve pas. Vous
n'êtes que le thermomètre.
Voilà.
Et pas la maladie.
Exactement. Oui, c'est ça. Parce qu'après, je me fais insulter. Je m'appelle pas Jean-Pierre ChatGPT, si vous voulez. C'est un peu le problème. Alors, donc du coup, effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en train de revenir en arrière, de se rendre compte que oui, l'humain, ça a du bon. Les derniers en date, c'est Ford, grand constructeur automobile, évidemment. Ils viennent de réembaucher 350 ingénieurs qui avaient été mis de côté. Pourquoi ? Sur l'autel de l'intelligence artificielle. En gros, ils avaient voulu automatiser notamment le contrôle qualité. Le contrôle qualité, vous savez, dans les usines, on doit déterminer si les voitures sont bien conformes à tous les standards de qualité.
C'est quand même mieux,
d'accord ? Et ça, on s'est dit, l'intelligence artificielle peut le faire. C'est-à-dire, ils ont installé des centaines de caméras intelligentes dans les usines qui sont capables de dire non, il y a une vis qui dépasse, il faut refaire ce genre de choses. Voilà. Sauf que, ils se sont rendus compte, que la qualité moyenne des voitures baissait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils manquent un truc à l'intelligence artificielle. Il lui manque l'expérience empirique du gars qui a passé 15 ans sur une ligne d'assemblage et qui peut, au bruit de la portière, là, dire non, la portière, elle est mal réglée. Ça, l'intelligence artificielle, elle n'est pas capable de le faire. Je fais bien la portière. Oui, vous savez que toutes ces chroniques sont bruitées à la bouche, vous le savez bien. Il y a une qualité incroyable. Donc, effectivement, ils se sont rendus compte que ça manquait, que ça créait des problèmes et qu'il fallait donc faire revenir les humains qui bossaient mieux que l'intelligence artificielle. Alors, ça n'est malheureusement probablement que temporaire.
Parce
que
c'est pas tout à fait la norme quand même.
Non, c'est pas tout à fait la norme. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont fait revenir les humains, mais les humains, l'un de leurs boulots maintenant, ça va être d'être les professeurs de l'intelligence artificielle. Ouais, c'est un peu ça. Et donc d'entraîner les futurs modèles d'IA qui à terme pourront peut-être les re-remplacer d'une certaine manière. On a au moins un répit, on va le dire comme ça.
C'est les CDD, quoi.
C'est un peu ça.
En tout cas, Ford, c'est pas le seul exemple hein, d'entreprises qui sont revenues sur l'intelligence artificielle.
Non, il y a énormément de cas de ce qu'on pourrait appeler du rétropédalage technologique. Il y a ce chiffre un peu fou, alors qui vient des États-Unis. Je pense qu'en France, c'est un peu différent. On n'a pas eu toutes les grandes vagues de licenciements liées à l'IA comme on en a eu aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a 32% des dirigeants qui ont supprimé des postes à cause de l'intelligence artificielle, qui ont fini par réembaucher des gens aux mêmes emplois.
Ça fait un tiers.
C'est énorme. Ça veut dire que vraiment, il y a un manque de satisfaction sur la promesse de l'intelligence artificielle. C'est une révolution technologique, hein, je suis le premier à le dire, évidemment. Sauf qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont trop vite et qui font ça un peu n'importe comment. Et c'est dans tous les domaines. Ça va des fast-food, hein, je vous avais parlé de ces chaînes de fast-food qui avaient mis en place des systèmes de commandes automatiques. On parlait à une IA pour passer sa commande, par exemple.
C'est pas mal, ça.
Bah, sur le principe, sauf que ça fonctionne pas toujours très bien. Ah. Et donc, il y a des gens, ils se retrouvent, vous commandez une glace et vous vous retrouvez avec une glace avec un supplément bacon. Bon, c'est un peu bizarre. ça, normalement, l'humain fait pas. Ça peut tenter, pourquoi pas. Si c'est pas ce que vous avez demandé, ça peut être surprenant. Et ça va jusqu'à des entreprises qui veulent remplacer, par exemple, tout leur système, leur service RH, les ressources humaines, par de l'intelligence artificielle. On se dit, ah, ça peut être automatisé. Et qui se rendent compte, bah, que, en fait, quand vous avez un conflit entre un manager et un salarié, et qu'il faut un peu de doigté, un peu de diplomatie, bah, en fait, l'IA, elle suffit pas. Et qu'on a envie, à ce moment-là, de parler à des êtres humains.
En fait, l'erreur fondamentale, Anthony, c'est de vouloir aller trop vite et de faire du tout IA. La bonne formule, c'est un peu d'IA et beaucoup d'humain, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est le mélange des deux qui fonctionne très très bien, parce que l'IA, elle a ses points forts. Évidemment, elle fait gagner énormément de temps sur les tâches qui sont automatisables. Et là, elle est imbattable, très très clairement. Et il s'agit pas de dire que l'IA dans les entreprises ça sert à rien. Évidemment, ça fait gagner énormément de temps. Mais sur toutes les tâches qui demandent, des décisions difficiles, des situations imprévues, de la négociation, de l'empathie, des choses qui sont fondamentalement humaines, là, l'intelligence artificielle ne suffit pas. Et on le voit bien, par exemple, dans le service après-vente et la relation client. Ça, c'est pareil. Il y a plein de boîtes qui se sont dit, on va déléguer ça à une IA, elle va faire ça beaucoup mieux, gérer les relations avec les clients. Et en fait, les clients, ils se rendent compte que on veut avoir quelqu'un. Et on est même très énervé quand on se rend compte qu'on nous a mis une machine en face, parce qu'on se dit, la marque, en fait, elle me respecte pas, elle me met à discuter face à un robot. Moi, je veux discuter avec un humain.
Il manque l'empathie,
exactement.
On va y venir.
Non, mais c'est toujours pareil. C'est une question de, j'allais dire d'années, mais c'est presque de mois, la vitesse à laquelle les modèles d'IA avancent.
Merci beaucoup Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès tous les jours 12h50. Dans Estelle Midi, on parle de quoi demain?
Demain, on va parler argent de poche.
Ah super.
L'argent de poche qui passe au mode dématérialisé, en mode numérique, avec plein d'initiatives et plein d'idées pour aussi bien gérer son argent. Il y a toute la question de l'éducation financière des adolescents notamment. Je sais que c'est un sujet qui vous est cher, et on va en parler demain.
C'est une de mes marottes. Ouais. Merci beaucoup Anthony Morel. Dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. On parlera d'une nouvelle cérémonie commémorative du 11 novembre à l'école. On parlera de cartes postales et puis bien sûr cette victoire un peu miraculeuse hier de l'Argentine face à l'Égypte. À tout de suite.
RMC, retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr.